Nous avons découvert que c'était les mêmes enfants qui cumulaient à la fois les niveaux de privation et d'extrême privation et les niveaux d'intégration sociale précaire ou très précaire. Donc ce sont bien les mêmes enfants et les mêmes adolescents qui subissent une triple ou une quadruple peine et à qui on peut attribuer à la fois un ressenti de privation très important et un manque d'intégration dans la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire une intégration insuffisante à l'école, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur collectivité, mais également une participation insuffisante à la vie de cette collectivité. Ce sont des enfants qui, globalement, ne sont pas suffisamment associés au projet, à qui on ne demande pas suffisamment leur avis, et surtout ne se sentent pas autorisés à pouvoir les donner, ces avis. Et puis ce qu'elle nous apprend aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y en a quand même une grande majorité d'entre eux qui se sent bien, qui se sent respectés, qui vit ses droits pleinement en France, donc ça c'est déjà essentiel, mais nous devons avoir un regard particulier sur la minorité, sur les 17% d'enfants qui vivent dans ces situations d'intégration sociale précaire.
Et quels facteurs peuvent expliquer le fait que ces enfants donc, subissent à la fois une intégration sociale précaire et en même temps donc, ont des soucis au niveau précarité ?
Les liens sociaux qui rattachent normalement l'enfant à sa famille, à son quartier, sont eux aussi source de profonde inégalité. Et tout ce qui pourrait raccrocher l'enfant à son bien-être, en fait, à un développement harmonieux, est également défaillant parce que l'enfant, et c'est lui qui le dit dans cette étude, se ressent non intégré alors qu'il a déjà ce ressenti très fort de privation. Et cette corrélation entre les deux, la privation et l'intégration sociale, est notamment due au fait de ne pas avoir une estime de soi suffisante pour certains, de ne pas oser frapper à la porte de certains services et surtout de ne pas avoir accès à un certain nombre de services pour des raisons monétaires, mais aussi pour des raisons parfois culturelles ou sociales, tout simplement.
Le médecin Catherine Dolto, qui a étudié les réponses des enfants, a parlé d'une tolérance au gâchis. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Elle l'explique très simplement qu'on a en France une propension à accepter un certain nombre de choses comme étant des fatalités, notamment le taux de chômage ou le taux de pauvreté des adultes. Elle dit que malheureusement, dans tout cela, on accepte qu'il y ait du gâchis humain et notamment du gâchis d'enfants. Elle dit ça dans ce sens où ces enfants, ces 17% dont on parle, sont en situation de disqualification sociale, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui va les amener certainement à l'âge adulte à reproduire ces schémas d'inégalité sociale. Ce sont des enfants qui sont déjà dans des comportements qui marqueront leur vie entière. Et c'est pour ça qu'on parle de gâchis, c'est-à-dire que c'est des enfants à qui on pourrait tout simplement tendre la main, sourire et on pourrait les intégrer dans la société d'une façon beaucoup plus positive et dont on pourrait les sortir du fossé dans lequel ils sont tombés.
Par rapport à ce lien social qui est plus difficile pour les enfants en situation de précarité, quelles seraient les actions qui seraient nécessaires pour leur permettre d'améliorer les liens sociaux ?
Ce que l'UNICEF appelle de ses voeux est la construction d'une politique globale, c'est-à-dire une politique qui envisage l'enfant dans sa totalité, je dirais c'est un terme un peu trivial, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas être traité d'une part au moment où il fait du sport, ensuite on va s'occuper de lui avec une autre spécialité qui est la culture, puis c'est la garde, puis c'est l'éducation, etc. Donc il faut que les personnes qui réfléchissent à ces politiques publiques puissent se mettre tous ensemble et se dire l'enfant est un individu à part entière. Toute la journée, on doit le considérer dans ses besoins et ses attentes spécifiques. Ensuite, une politique publique qui place l'enfant au cœur des choix politiques. C'est-à-dire que pour chaque projet, il faut qu'on envisage de quelle façon il va avoir un impact sur l'enfant, sur sa famille et de quelle façon est-ce que ça peut être le plus bénéfique possible pour cet enfant ou pour ce jeune. Et je pense qu'au niveau local, c'est de créer vraiment un lien de proximité réel avec l'enfant et le jeune, l'associer au projet de la collectivité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est de recréer de la mobilité, c'est-à-dire aller au-devant des familles qui sont en difficulté, aller au-devant des jeunes et des enfants qui sont en difficulté, et leur proposer des services dont ils n'osent pas parfois bénéficier. La gratuité ne fait pas l'accès à un service, mais c'est en proposant ce service, en allant démontrer qu'il peut apporter à l'enfant, qu'on pourra aussi convaincre sa famille de pousser la porte d'une médiathèque, d'une piscine, etc. Donc tout ça fait partie de ce lien social qu'il faut recréer.